J'ai pensé pour ce matin apporter un message qui fera suite à tout ce que nous avons dit dans ces messages où nous avons recherché la manifestation de l'amour de Dieu dans notre vie, où nous avons réalisé aussi la grandeur de ce Dieu d'amour. Et comme un serviteur de Dieu a dit, Dieu est un père au cœur de mère. Je crois que ça complète un peu ce que notre frère a dit. Ça ne vient pas de moi, c'est un autre serviteur de Dieu. C'est Gaston Racine, sauf erreur, qui avait dit cela. Dieu est un père au cœur de mère. Et quand nous réalisons la grandeur de ce Dieu d'amour, alors il nous est beaucoup plus facile de nous accepter nous-mêmes et de savoir que nous sommes vraiment aimés. Et que cet amour est inconditionnel. Vous savez ce que j'ai appris? Un jour, j'ai lu dans un récit concernant l'amour. Le serviteur de Dieu disait, avez-vous déjà dit à vos enfants, si vous les aimez? Et alors, il continue en disant ceci, Dieu aime vos enfants, et les grands aussi, mais Dieu aime vos enfants quand ils sont gentils, et Dieu aime vos enfants quand ils ne sont pas gentils. Oh, je dis, tiens, c'est tout nouveau pour moi, ça. Et j'ai réfléchi un petit peu. Et j'avais jamais dit à mes enfants que je les aimais, même lorsqu'ils n'étaient pas gentils. Vous savez, hier soir, il y a quelque chose qui m'a réjoui aussi. Quand nos enfants ont chanté un petit chant, Jésus aime les enfants. Mais vous savez, moi, comment on l'avait appris, nous? Et je suis heureux qu'il l'ait changé. Comment c'était dans les anciennes paroles? Quand ils sont bien sages. Oh, mais c'est pas vrai. C'est pas l'évangile, cela. Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui aime seulement quand on est sage et qui nous déteste ou qui nous rejette quand on n'est pas sage? Est-ce le Dieu de l'évangile? Et j'étais heureux quand ils ont dit et chanté, il les rend bien sage. Oh, ça, c'est merveilleux, oui. Il nous aime et il nous rend sage. Et seul son amour nous rend sage. Mais la vérité importante est celle-ci. Dieu nous aime quand nous sommes gentils et Dieu nous aime quand nous ne sommes pas gentils. Cela ne veut pas dire que nous devons rester pas gentils. Mais, au contraire, si nous avons fait quelque chose, nous devons demander pardon. Mais nous devons être convaincus et assurés que l'amour de Dieu est invariable. Il ne se lasse jamais. C'est nous qui nous lassons de nous-mêmes. Mais lui ne se lassera jamais de vous. Vous auriez pu dire alléluia à cette parole. Alléluia. Parce que quand même, c'est une parole intéressante, n'est-ce pas vrai? Qui peut redonner du courage à ceux qui sont là. Et mon message de ce matin est sur le courage, sur l'encouragement. Car c'est aussi une forme de manifestation de l'amour, l'encouragement. Avez-vous pensé à cela? Avez-vous remarqué que le Saint-Esprit est appelé le consolateur? Autrement dit, on pourrait traduire, je ne sais pas, ça n'existe pas en français, l'encourageur, celui qui encourage. Quand le Saint-Esprit nous console ou nous exhorte, c'est un esprit d'encouragement qu'il a derrière. Et l'Esprit de Dieu, autrement dit, l'Esprit d'amour de notre Seigneur, est un esprit d'encouragement. Et le message que je voudrais vous apporter ce matin est celui-ci. Hier, nous avons vu comment vaincre le géant du... Ça y est, vous lui avez jeté quelques pierres sur la tête hier, oui? Du ressentiment. Allez, ne laissez absolument pas lui montrer la tête. Dès qu'il arrive, dites-lui, je n'en veux pas. Et j'étais heureux, plusieurs entre nous, on s'est demandé un petit peu pardon. Certains sont venus vers moi, et puis voilà. Ça a été un peu, voilà, ça c'est formidable. Et Dieu bénit toujours celui qui fait cela, n'est-ce pas vrai? Mais maintenant, un autre géant qu'il faut vaincre. Comment vaincre le géant du découragement? C'est le titre du message. Comment vaincre le géant du découragement? Car c'est un véritable géant. Et j'ai lu une fois ce récit que le diable tenait comme une espèce de, de, de comptoir. Et sur ce comptoir, il y avait toutes sortes de... d'outils. Il y en a qui étaient tout neufs, les autres un petit peu utilisés. Il y en avait un qui était tout biscornu. On avait l'impression que cet instrument, cet outil-là était très très utilisé. Et sur cet instrument, il était marqué « découragement ». Et le diable était derrière très content d'utiliser cet instrument, car il a dit « c'est l'instrument que j'utilise le plus ». Car avec cela, si j'arrive à décourager un chrétien, si j'arrive à décourager un serviteur de Dieu, cette personne fera ce qu'elle n'osait pas faire autrement. C'est pourquoi lorsque nous sommes découragés, nous sommes la proie de l'ennemi. Et l'ennemi cherchera à nous décourager. Mais comment le vaincre? Il faut avoir une détermination pour vaincre ce géant. J'ai lu aussi ou j'ai entendu ce petit récit. C'est un autre pasteur qui m'a dit ça. Il m'a dit, tu sais, une fois on raconte l'histoire d'un petit rat qui est tombé dans un bol de lait, enfin un pot de lait. Alors naturellement, quand le rat est tombé là-dedans, il n'y avait qu'une chose à faire si le rat a commencé à patouiller, à se battre pour sortir de ce pot. Sans quoi c'était la noyade. Alors le rat ne s'est pas découragé, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il s'est pas découragé, il a continué de battre, Il a continué. Au bout d'un certain temps, le lait s'est changé en beurre. Il est monté sur le beurre et il est sorti. N'est-ce pas formidable?
Si vous tombez dans le pot, ne vous découragez pas.
Dis que c'est la crème.
Ah, la crème. Ah oui, la crème, oui. Enfin, c'est la crème du beurre. Bon, c'est un peu tout la même chose. La crème. Alors, si vous êtes tombé dans un pot et que vous êtes en train de vous débattre, continuez. Ça va changer. Vous allez changer vos défaites en victoire. Vous allez changer votre incrédulité en foi. Vous allez changer votre tristesse en louange. Continuez. Pour vaincre ce géant, il faut une persévérance. Alléluia. Comme texte de ce message, lisons Josué, un passage bien connu, qui nous montre l'importance du courage dans la vie de chacun d'entre nous. Josué, chapitre 1, les 9 premiers versets. Chapitre 1, les 9 premiers versets. Voici ce que nous lisons. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Regardez, déjà une fois c'est mentionné ici. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Voyez-vous, une deuxième fois, Dieu ne se répète pas inutilement. Il y a une raison pour cela. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Soulignez bien cela, c'est un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Voyez-vous, une troisième fois. Ne t'effraie point,
ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Ne t'ai-je pas donné un ordre? Avoir du courage, c'est obéir à un ordre de Dieu. Et quand Dieu nous donne un ordre, nous pouvons toujours obéir à cet ordre, n'est-ce pas vrai? J'aimerais vous donner maintenant, comme hier, nous parlons des géants. Alors il a fallu avoir 5 pierres pour détruire ce géant du ressentiment. J'aimerais encore vous donner 5 pierres maintenant pour détruire le géant du découragement. Et ces 5 pierres correspondront à 5 domaines dans lesquels vous devez vous encourager. 5 domaines où l'encouragement doit se manifester. La première pierre, autrement dit, le premier lieu où vous devez vous encourager, c'est d'abord vous-même. C'est l'encouragement personnel. C'est par cela que ça commence. Vous vous souvenez de David, quand il avait été combattre les Amalécites, et il a eu des histoires, quand il est rentré avec tous ses soldats, leurs femmes, les enfants, tous les biens avaient disparu. Si bien que lorsque les soldats de David ont vu que plus personne n'était là dans le camp, ils ont commencé à parler, à dire entre eux, mais il faut qu'on lapide David, à cause de lui, regarde nos femmes, nos enfants maintenant. Il n'y a plus personne. Et David était dans une situation extrêmement difficile. Mais au sein de cette situation, dans 1 Samuel chapitre 30 verset 6, voici ce que David dit. Il est dit que David reprit du courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Voyez-vous, alors que rien autour de lui ne l'encourageait, non seulement ne l'encourageait, mais était là pour abattre son courage, détruire son courage, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il y a là donc une première vérité que nous devons tous expérimenter, c'est apprendre à nous encourager nous-mêmes. Amen. Apprendre à nous encourager nous-mêmes, quelles que soient les situations. Si nous apprenons à nous encourager nous-mêmes lorsque tout est contre nous, alors qui pourra vous décourager? Dites-moi un petit peu. Il y en a, vous leur dites un petit mot de travers, il n'y a plus personne déjà, ils font une dépression. Un petit mot de travers, ils font une dépression. Mais où est-ce que vous allez aller? Vous devez et je dois apprendre à m'encourager. Maintenant, comment le faire? Vous savez, dans la vie de David, je ne sais pas ce qu'il a fait, il n'est pas dit exactement ce qu'il a fait pour s'encourager, pour reprendre courage. Mais dans la vie de David, nous voyons 4 choses qui ont permis à David, en tout cas, de remonter à la surface, de reprendre espoir et courage en l'Éternel. Un jour, il était très abattu. Il était très découragé, savez-vous pourquoi? Parce qu'il avait tout simplement péché. Nous pouvons être découragés parce que nous avons péché. Et comment s'encourager? Comment retrouver courage? Alors il n'y a qu'une chose à faire, faire ce que David a fait, confesser son péché. J'ai dit, j'avouerai mon péché à l'Éternel. Tant que je me suis tu, disait-il, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. C'était donc une expérience vraiment douloureuse, tragique. Il ne pouvait pas s'encourager, vous êtes d'accord avec moi? Quand le péché est dans notre cœur, nous ne pouvons pas nous encourager. Le péché décourage toujours. Mais la confession de ce péché nous libère de ce découragement. Amen. Alors, rappelez-vous bien de cela. Si un jour vous êtes découragé, demandez au Seigneur, Seigneur, n'y a-t-il pas quelque chose qui t'a déplu dans ma vie? Confessez votre péché. J'ai dit, j'avouerai mes péchés à l'Éternel. Je lui dirai que j'ai péché. Et il a effacé la peine de mes transgressions. Alléluia! Alors confessez, ne gardez rien dans votre cœur. C'est là le secret d'une vie victorieuse, libre. Trop de chrétiens gardent des péchés dans leur vie. Vous savez,
En parlant de péché, je ne parle pas de grands péchés. Je pense que tous ici, nous avons mis de côté ces grands péchés dont nous parlons souvent, dont nous entendons parler. Mais ce qui fait trébucher les chrétiens, ce sont des petites choses, des mauvaises pensées, une rancune, un ressentiment, des choses qui sont là et que nous nourrissons malgré tout, des soucis aussi. C'est pourquoi nous devons confesser ces choses et Dieu nous purifiera et le courage germera en nous. Amen. Alors pense à cela, David a dû le faire. Tant qu'il s'était tu, il gémissait. Autrement dit, il était désespéré, découragé. Mais à partir du moment où il a tout dit, Dieu l'a délivré. Si vous dites tout, Dieu vous délivrera. Peu importe la multitude de vos péchés, cela n'influence pas Dieu. Le sang de Jésus vous purifiera et vous rendra plus blanc que la neige. Alléluia. Que faisait David encore lorsqu'il était découragé? Très souvent dans les psaumes, nous voyons qu'il mettait sa confiance en l'Éternel et il confessait des promesses que Dieu lui avait données. N'est-ce pas vrai? Et en cela, nous voyons David confesser les promesses de Dieu, rappeler à Dieu ses promesses. Et c'est une merveilleuse façon, méthode, d'être délivré de nos découragements. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous recherchons les promesses de Dieu, lorsque nous confessons ces paroles positives de la parole, de la Bible, alors que se passe-t-il? Nous ne confessons plus nos craintes. Nous ne confessons pas le négatif. Cette confession positive de la parole de Dieu produit la foi en nous. Et lorsque la foi est là, le découragement s'en va. Amen. C'est pourquoi rappelez-vous de cela. Recherchez la face de Dieu. Prenez des promesses. Confessez-les. Dites-lui comme David l'a fait. Il confessait ces merveilleuses paroles, les promesses de Dieu. Et je vous assure, cette parole est esprit et vie. Cette parole produira la foi en vous. Et cette foi fera tomber le géant du découragement. Amen. Alléluia. La confession de la parole de Dieu. Il y avait autre chose encore. Qui a délivré David du découragement? C'est lorsqu'il comptait les bienfaits de Dieu. Psaume 103, avez-vous remarqué? Mon âme, notre frère en a parlé, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Autrement dit, si vous voulez que le courage revienne, dans ces périodes difficiles, il faut faire une chose. Il ne faut pas vous rappeler tous les pépins que vous avez eus, ou tout ce qui est contre vous. Mais au contraire, vous rappelez toutes les bénédictions que Dieu vous a accordées. De compter les bienfaits de Dieu, faites un effort. Et vous verrez qu'au bout d'un certain temps, ces bienfaits seront tellement nombreux que vous serez littéralement transformés. Je raconte très souvent cette histoire du jeune homme qui était découragé et qui est venu voir le pasteur. Alors le pasteur lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas le jeune. Avec les jeunes, c'est un peu comme ça, ils se découragent facilement, les jeunes. Oh, il n'y a pas que, d'ailleurs, en parenthèse. Alors, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas. Le Seigneur m'a abandonné. Oh là là, une drôle de révélation. Ça. Le Seigneur ne m'aime pas. Le Seigneur m'a abandonné. Ah oui? T'as une nouvelle Bible ou quoi? Alors le pasteur a tout de suite compris. Et il lui a dit, mets-toi à genoux maintenant ici. Et tu vas faire une chose. Tu vas commencer maintenant à réfléchir un petit peu. Et tu vas sortir de ta petite tête une bénédiction que Dieu t'a accordée. Ces jours-ci, ou il y a une semaine, ou il y a un mois, mais réfléchis un petit peu. Alors il a dû réfléchir un peu. Et au bout de quelques secondes, ça y est. Ah oui, la semaine dernière, oui. Ah oui, c'est vrai, j'avais prié le Seigneur pour telle chose, il m'avait béni, c'est vrai. Alors, dis-lui merci. Ah, merci Seigneur pour... Il y a 8 jours, en effet, oui, j'avais oublié, c'est vrai. Merci Seigneur. Merci. Voilà, alors maintenant, tu t'es rappelé de ça? Alors maintenant, réfléchis encore. Cherche, il n'y a pas une autre bénédiction que le Seigneur t'a accordée. Oh, il y a un mois, oui, il y a un mois. Ah oui, il y a ça, il y a un mois. Et de fil en aiguille,
il commençait à se rappeler beaucoup de choses. Et au bout d'un certain temps, il n'attendait plus que le pasteur lui dise quelque chose. C'était lui qui il était en train de compter littéralement tout ce qu'il avait fait. Merci Seigneur pour ça, merci Seigneur pour ça, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au bout d'un certain temps, ce jeune homme était complètement transformé, il est reparti à la maison, il n'était plus le même. Le pasteur n'a pas dû prier pour lui, il a compté ses bienfaits et il était libéré de son découragement. À Genève, au mois de septembre dernier, j'ai entendu le témoignage d'une jeune fille qui s'était convertie il y a un an ou deux. Et dans son témoignage qui était tout simple, elle a dit ceci, et ça m'a fait plaisir. Elle a dit ceci, je tiens un peu un journal, disait-elle. Et alors, quand le Seigneur m'accorde des bénédictions, je note ça. Voilà, tel jour à telle heure, telle bénédiction. Tel jour à telle heure, telle bénédiction. Tel jour à telle heure, telle bénédiction. Elle dit, voilà, je note tout ce que le Seigneur fait dans ma vie. Et c'est formidable. Et certains jours, quand je suis découragé, quand je pense que Dieu m'a abandonné, alors je reprends mon journal. Il y en a qui se trompent de journaux. Si vous lisez que les journaux du monde, vous risquez pas d'être encouragé, je vous assure. Faut pas vous tromper de journaux. Elle a pris le bon journal. Et alors, quand elle est découragée, elle reprend son journal. Et puis elle dit, ah oui, oui, me rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai, dis donc, la semaine dernière, tout ça, formidable. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh là, et puis ça y est, elle était complètement transformée. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je suis persuadé que si les enfants de Dieu comptaient davantage les bienfaits de Dieu, le découragement serait détruit. Vous prendriez ce géant du découragement à la gorge et vous lui diriez, maintenant, va-t'en. Amen. Alors, ne l'oubliez pas. Et une autre méthode que David employait beaucoup pour le sortir du découragement, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. La louange vous délivre du découragement. La louange est une méthode extraordinaire, notre frère en a parlé hier soir. C'est une méthode extraordinaire pour nous délivrer du découragement. Êtes-vous découragé? Commencez à le louer. Sentiment ou pas sentiment, commencez à le louer. Et David faisait cela. Et lorsqu'il jouait de l'harpe, vous le savez bien, n'est-ce pas? Lorsqu'il louait le Seigneur, jouait de l'harpe, il prophétisait et les mauvais esprits devaient partir. Car dans la louange, l'esprit prophétique vient sur vous et les mauvais esprits s'en vont. Et si les mauvais esprits s'en vont, la présence des anges viendra près de vous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Ainsi vous retrouverez du courage. Louez le Seigneur. Louons-le davantage. Voulez-vous le faire, mes chers amis? Si vous faites ces quatre choses, vous allez vous encourager personnellement. Maintenant, la deuxième pierre, ou le deuxième domaine dans lequel nous devons nous encourager, c'est l'encouragement dans la famille. Dans nos familles. Le papa à l'égard de sa petite femme, et la petite épouse à l'égard de son petit mari. Et aussi, les parents à l'égard des enfants. Colossiens 3, 21 nous dit, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Voilà ce que Dieu demande aux parents, de ne pas irriter les enfants à un tel point qu'ils se découragent. Car, comme on l'a dit tout à l'heure, un enfant se décourage très facilement. Et le rôle des parents, c'est de les encourager. Quand votre enfant rentre de l'école et a une mauvaise note, combien de parents ont un ministère à l'envers? Qu'est-ce que tu as eu? Aujourd'hui, j'ai eu zéro, papa. Tu as eu zéro? Tu feras jamais rien, toi. Mais je l'avais bien dit. Hein, chérie, je l'avais bien dit. Hein, je t'avais bien dit qu'il fera jamais rien dans sa vie, celui-là. Allez, va-t'en. Tu n'auras pas de dessert aujourd'hui. Voilà le ministère d'encouragement de certains papas et mamans. Voilà comment ils pensent encourager l'enfant. Mais qu'est-ce que tu joues pas? Viens là, mon fils. T'as eu zéro? Mais la prochaine fois, t'auras un 20. Viens, mon petit précis. Ne te casse pas la tête. C'est rien. Tu vas voir que ça va mieux aller. C'est rien. T'en fais pas. Tu vas réussir. On est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Tu vas réussir. Ne te décourage pas. Ça va aller, mon fils. Ça va aller, ma fille. Voilà le rôle des parents à l'égard des enfants.
Dites-moi, certains d'entre nous, vous êtes peut-être traumatisés jusqu'à ce jour d'avoir entendu certains parents vous dire, ou votre papa et votre maman vous dire, « Toi, tu ne feras jamais rien dans la vie. Tu es un zéro, un paresseux, un vaurien, tu ne feras jamais rien dans ta vie. » Combien de personnes sont traumatisées avec de telles paroles? Ceci pour vous dire l'importance des paroles que les parents ont sur leurs enfants. Car un enfant croit ce que son père lui dit. Si le papa dit qu'il vaut rien, alors pour lui, c'est la voix de Dieu, vous comprenez? Vous êtes le représentant de Dieu. Pour lui, c'est la voix de Dieu. Alors il va se dire, ah oui, mon père pense ça, c'est que vraiment, je ne vois rien du tout. Il va croire votre parole, il ne sait rien d'autre. Il va croire cela. Il va vivre au niveau de vos déclarations. C'est pourquoi, encouragez vos enfants. Amen. Amen. Encouragez, encouragez. Vous avez fait des erreurs, j'ai fait aussi mes gaffes, mais relevons-nous. Le juste tombe sept fois, chaque fois il se relève. Encouragez vos enfants. Bien sûr, s'ils ont fait une bêtise, vous dites, oh là, tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû faire ça, bien sûr. Mais tout dans un esprit positif, tout dans un esprit d'encouragement, ça ira mieux. Tu verras, le Seigneur est là. Alléluia. Et combien vite un enfant est remonté aussi, n'est-ce pas vrai? Combien? Vous le savez mieux, quoi, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous en faire la leçon. Que Dieu nous aide. Chers papa et maman, ceci est très important. L'encouragement dans la famille. Certains pères sont prêts à encourager les frères et les sœurs de l'extérieur. Ou les jeunes du couple d'à côté. Viens voir un petit peu si tu as des problèmes, toi. Viens, voilà. Mais tu vois, ça ira bien, ça ira bien. Viens, je prie avec toi. T'as eu un zéro? J'ai rien du tout. Tu vois, on va prier pour que le Seigneur te donne un vin. Dimanche, pas dimanche prochain. Oui, à l'école, à l'église, si tu as un vin, ça ira mieux là-bas. Mais alors, là, le papa qui fait cela avec ce jeune homme, avec son propre fils, t'as eu un zéro? Tu vois rien. Oui, c'est pour vous montrer que très souvent nos attitudes sont contradictoires. Encourageons nos enfants. Voulez-vous le faire? Faites-le davantage. Et quelque chose de grand, de profond se manifestera en eux. Et maintenant, pas seulement parents à l'égard des enfants, mais entre époux. Et encore, il y a des ministères un peu à l'envers. La femme a été donnée pour son mari, la Bible dit, comme une aide pour le compléter. Une aide, autrement dit, pour l'encourager. Et une femme devrait beaucoup encourager son mari, donner des paroles d'encouragement. Je raconte souvent l'histoire de la femme de Martin Luther. Vous avez entendu parler?
Non.
De Madame Luther. Un jour, Madame Luther s'est habillée tout en noir. Elle se présente devant son mari. Son mari, monsieur le réformateur Martin Luther, qu'est-ce que c'est que ça? Qui est-ce qui est mort dans la maison? Sa femme lui dit, ton Dieu est mort. Comment mon Dieu est mort? Mais oui, ça fait une semaine, 15 jours, que tu es en train de ruminer du noir. Depuis 15 jours, tu ne pries plus, tu es dans une dépression, tu es complètement découragé. Si tu es comme ça, c'est parce que ton Dieu est mort. Voilà. Ça lui a fait réfléchir. Et il a dit, femme, mais c'est vrai ce que tu me dis. Mais mon Dieu n'est pas mort. Alors il a repris courage. Et il a dit, oui, tu as bien fait de me montrer cela parce que je ne réalisais pas finalement dans l'état dans lequel j'étais. Et il a repris courage à cause d'une femme qui a voulu lui montrer comment faire pour sortir du découragement. Oh, heureux est le mari qui possède une telle femme. Il n'y a pas beaucoup d'alléluia, mesdames. Qui est-ce qui doit dire alléluia? Le mari ou la femme, là?
Alléluia.
Alors les femmes disent amen. Heureux est le mari qui possède une telle femme. Mais ne soyez pas comme la femme de Job, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde tout ce qui t'arrive. Tu as servi Dieu, tu obéis à Dieu, tu fais tout pour plaire au Seigneur. Et regarde ce qui t'arrive maintenant. Maudit Dieu est mort. Voilà certains encouragements que certaines femmes donnent à leur mari. On va tout promener, tu sais, on sera bien plus tranquille.
On arrête tout, on prend une autre direction maintenant. Ça ira mieux.
Tu verras, ça sera bien.
Mais vice-versa, attention, ne pensez pas que je vais oublier les... Hein? Les messieurs, et les messieurs, votre rôle aussi est d'encourager votre épouse.
De les encourager. De leur dire, chérie,
c'est formidable, dis donc, mais tu te débrouilles bien, toi. Tu es une cuisinière formidable. Tu fais un bon travail à la maison. Je vois que tu aimes bien tes enfants. Je vois que tu t'occupes bien d'eux. Je vois que tout cela, vraiment, tu le fais de tout ton cœur. Tu es une femme formidable. Tu es la plus belle des femmes. Et comme je le dis souvent, si je devais me remarier, eh bien c'est avec toi que je me remarierais. Quand une femme entend cela, oulala, elle n'en peut plus.
Elle n'en peut plus, c'est trop pour elle.
Mais il faut lui dire ça. Quand vous voyez que ça lui fait plaisir. Mais certains maris, vous savez qu'ils ont des malins plaisirs. Quand ils savent que quelque chose fait plaisir à leur femme, ils disent justement le contraire.
Voilà le ministère d'encouragement qu'ils ont. Et ils sont étonnés après que...
Ça va pas dans le ménage. Ils sont étonnés qu'il n'y a pas d'exaucement dans la prière.
Ils sont étonnés que quelque chose ne va pas.
Exhortons-nous les uns les autres. Amen. Maintenant, une troisième pierre qui sera le troisième lieu d'encouragement, c'est l'encouragement dans l'Église. Encouragement dans l'Église, entre frères et sœurs, entre le pasteur et les paroissiens, les chrétiens, entre les chrétiens et les pasteurs. Il doit y avoir un esprit d'encouragement. Vous y croyez à cela ? Malheureusement, nous avons oublié cela. Attention, faisons bien une différence entre l'encouragement et la flatterie.
Flatter, c'est vraiment dire à quelqu'un tout ce qu'il a fait pour Dieu.
Et ça, ça remplit l'homme d'orgueil et ça ne va pas.
Mais encourager quelqu'un, c'est lui dire tout ce que Dieu a fait pour cette personne
et par cette personne. Amen. C'est cela l'encouragement. Alors, Hébreux chapitre 3, verset 13 nous dit... Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Et on pourrait traduire,
encouragez-vous les uns les autres chaque jour. Voilà ce que nous devrions faire. Qu'il y ait chaque fois des paroles d'édification qui nous encouragent.
Oh, le ministère le plus beau, je trouve. En tout cas, l'un des plus beaux, c'est quelqu'un qui vient toujours vous taper sur l'épaule et qui vous encourage. Amen. Un jour, un prédicateur était découragé. Un prédicateur qui a une renommée mondiale, il était très découragé à cause de certaines choses. Et alors, un frère tout simple, qui ne connaissait pas le problème de ce prédicateur, il est allé le voir,
tout simplement, sans rien savoir, et il lui tape sur l'épaule. Et lui dit, mon frère, tu sais, tu fais un travail formidable pour le Seigneur. Tu fais un travail formidable. Le frère, le pasteur en question, n'a rien dit. Mais quand l'autre est parti, il est tombé à genoux. Et il a remercié le Seigneur. Cette parole l'a littéralement renouvelé, encouragé. Une parole d'encouragement. Mon frère, tu fais un travail formidable pour le Seigneur. Il a repris courage et il a continué. Et maintenant, il est encore l'objet de salut et de délivrance de milliers, sinon de millions de personnes. Rappelez-vous, considérez les conséquences d'une telle parole. Supposez que personne ne soit venu encourager ce serviteur de Dieu. Peut-être qu'il aurait quitté le ministère, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il aurait fait des bêtises. Et ça aurait été la catastrophe. Mais à cause d'une parole d'encouragement, le ministère reprend le circuit. Et à cause de cela, des centaines, des milliers d'âmes sont encore sauvées. Une parole peut sauver encore des milliers de vies. Une parole d'encouragement. Amen. Il y a plus de puissance dans vos paroles que vous ne le pensez. Une parole d'encouragement ne sera jamais perdue, jamais, jamais.
Alors, cela veut dire que les chrétiens doivent encourager aussi leurs pasteurs. Au lieu de toujours leur jeter des pierres, encouragez-le un petit peu. Pas de flatterie, bien sûr, mais encouragez-le. Quand vous voyez qu'il passe par une impasse, encouragez-le. Pas dans le péché, naturellement. Mais encouragez-le. Dites toujours une parole positive qui pourra l'aider. N'est-ce pas merveilleux, cela ? J'avais lu aussi l'histoire de Spurgeon. Vous connaissez ce fameux prédicateur Spurgeon, anglais ? Et un jour, lui-ci était découragé. On l'appelait le prince des prédicateurs. Il était découragé et les anciens se sont aperçus de son découragement. Et sans rien dire au pasteur Spurgeon qui était là, un des anciens s'est levé dans cette grande église du tabernacle à Londres et s'est adressé à la foule de gens qui étaient là. 5 000 personnes qui venaient régulièrement, chaque semaine, écouter le prédicateur Spurgeon, qui a fait un travail extraordinaire, comme vous le savez. Alors, il a dit, « Combien ici ont été convertis par le moyen de notre frère Spurgeon ?» Et des centaines de mains se sont levées. Et quand Spurgeon, qui était là derrière, a vu cela, quelque chose s'est passé en lui. Il a vu que son travail n'était pas vain dans le Seigneur. Il a repris courage et il a continué la course. Il ne faut pas grand-chose pour encourager quelqu'un. Amen. Donc les chrétiens encouragent les serviteurs. Le serviteur aussi doit encourager les autres. Quel beau ministère d'encouragement. Une petite tape fraternelle, un petit mot, que Dieu te bénisse, le Seigneur est avec toi, prends courage. Il ne faut pas grand-chose, chers amis. Et la plus petite personne au milieu de nous, la plus petite personne insignifiante, si elle obéit à ce que Dieu lui montre et à ce que Dieu lui dit, allez trouver telle personne, encouragez-le. Il n'y a pas besoin de faire des discours. Pas besoin de nous dire, oh, le Seigneur m'a montré que... Dites tout simplement ce que Dieu vous a dit. Une parole d'encouragement. Vous serez étonné. En tout cas, personnellement, le Seigneur sait quand il y a certains sentiments de découragement en moi. Toujours, il envoie telle ou telle personne ou une lettre qui arrive toujours au bon moment, qui parle de telle bénédiction, et je reprends courage et je repars. Et je dis, Seigneur, merci, tu ne m'as pas abandonné. Et chaque fois, le Seigneur l'a fait. Il le fera pour vous. Mais si vous pensez à encourager les autres, Dieu vous encouragera aussi. Alléluia! Et personnellement, j'aime beaucoup encourager. Faire en sorte que tous, nous puissions être dans la main du Seigneur, des instruments bénis. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, un quatrième lieu où l'encouragement doit se manifester, c'est l'encouragement dans le combat contre l'ennemi. Dans ce domaine aussi, nous avons besoin d'être encouragés. Être encouragés pour combattre le bon combat. Et vous savez, il y a un verset formidable pour cette pensée maintenant, Jacques 4:7. Soumettez-vous à Dieu. Ensuite, résistez au diable et il fuira ou s'enfuira loin de vous. Écoutez-moi bien maintenant. Il y a un verbe ici qui va vous encourager et qui va décourager le diable. Il est dit, si vous vous soumettez à Dieu, bien sûr, il faut vous soumettre à Dieu. Car si vous n'êtes pas soumis à Dieu, l'ennemi ne vous sera jamais soumis. Mais si vous vous soumettez à Dieu, si votre vie est entièrement entre ses mains, vous pouvez résister au diable. Quand Dieu dit résister au diable, vous pouvez le faire. Il ne vous donne jamais un ordre que vous ne pouvez accomplir. Quand il vous dit de résister, c'est que vous pouvez. Ne dites pas que vous ne pouvez pas quand Dieu dit que vous pouvez. Vous auriez pu dire Alléluia là. Ne dites pas que vous ne pouvez pas lorsque Dieu dit que vous pouvez. Autrement dit, résistez au diable. Et qu'est-ce qui se passe? Et il fuira loin de vous. Que veut dire le verbe fuir? Moi, je ne suis pas fort en français. Mais ceux qui sont forts en français, ici, qu'est-ce que ça veut dire le verbe fuir? Dans le verbe fuir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une pensée de crainte, de peur, d'angoisse. Alors, quand quelqu'un fuit devant vous, c'est quelqu'un qui est paniqué, qui a peur de vous. Autrement dit, lorsque nous résistons au diable, la Bible nous dit qu'il a fui parce qu'il a peur de nous. Alléluia. Et voilà une parole qui doit vous encourager et qui m'a profondément encouragé. C'est que ce n'est pas vous qui devez avoir peur du diable. La Bible nous révèle que c'est le diable qui a peur de vous. Il a peur de vous. Quel encouragement! S'il fuit devant vous, et il dit, et il fuira loin de vous. Il n'est pas dit loin de Jésus. Bien sûr qu'il fuit loin de Jésus, il le sait d'ailleurs. Mais nous, ce que nous devons savoir, c'est qu'il fuit loin de nous. Alors ça m'encourage, quand je sais qu'il fuit loin de moi. Pourquoi? Non pas parce que je suis quelque chose, mais parce que Jésus est en moi. Et lorsque Jésus est en moi, je suis quelqu'un. Lorsque Jésus est en vous, vous êtes quelqu'un. Vous êtes un fils de Dieu, vous êtes une fille de Dieu, vous êtes un ambassadeur du Seigneur, vous êtes quelqu'un. Vous êtes une autorité aux yeux de Dieu. Et l'ennemi doit reconnaître cette autorité. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne reconnaissent pas l'autorité que Dieu leur a donnée. Non seulement ils ne reconnaissent pas l'autorité que Dieu leur a donnée, mais ils ne l'exercent pas, leur autorité. Et le diable qui n'a pas d'autorité, exerce de l'autorité. Dites-moi, quelle contradiction. Le diable qui n'a plus d'autorité, il l'exerce sur nous. Et nous qui avons tous les droits, nous ne l'exerçons pas. Réagissons. Soyons encouragés dans ce domaine-là. Le découragement vous fuira quand vous saurez que le diable est un ennemi vaincu et que lorsque vous lui résistez, il fuira. Autrement dit, il a peur de vous. N'ayez pas peur de quelqu'un qui a peur de vous. Ne vous laissez pas lier par quelqu'un qui est lié. Ne fuyez pas devant quelqu'un qui fuit devant vous.
C'est ce que les chrétiens font. Ils fuient devant quelqu'un qui fuit devant eux.
Qu'est-ce que c'est cette histoire? Arrêtez de fuir devant le diable qui fuit devant vous, mais c'est deux fous qui sont en train de se courir après. Quelque chose qui n'est pas normal. Et quand il fuit loin de vous, vous ne voyez plus sa face, mais vous voyez son dos. Et puis vous voyez ses talons. Et vous le voyez courir. C'est beau, c'est une vision formidable de voir le diable de dos. Amen. Quand vous le voyez de face, il vous fait peur. Mais quand vous le voyez de dos, ça vous encourage. C'est lui qui a peur. Alléluia. Encouragement dans ce domaine-là. Un jour, j'avais lu cette histoire, c'était un peu comme une allégorie, mais qui va nous montrer combien nous pouvons faire quelque chose de formidable. Un jour, un chef démon, un prince, a dit à son petit subordonné, il a dit, viens ici, toi, un petit peu. Je te donne comme mission maintenant d'aller décourager tel chrétien. Tu dois aller le décourager. Tu dois aller lui dire qu'il est découragé et que ça ne va pas avec lui. Ah bon, merci chef. D'accord chef. À vos ordres chef. Alors, le démon s'en va. Il se cache ici. Voilà. Alors il commence à lui parler. Hello frère. Ça va bien? Oh formidable. Gloire à Dieu. Tu sais que tu es découragé?
Comment? Moi découragé?
Pas vrai. Oui, oui, ne dis pas. C'est pas de mensonge. Tu es découragé? Non, je suis pas découragé.
Oui.
C'est pas vrai, tu es découragé. Non, je ne suis pas découragé. Il n'a pas réussi. Alors il est venu plusieurs fois. Mais chaque fois, le chrétien a dit non, 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 je ne suis pas découragé. Au bout d'un certain temps, le démon est retourné voir son chef. Alors le chef le voit arriver.
Alors ça y est, t'as réussi à le décourager?
Ah, l'autre lui dit non, c'est lui qui m'a découragé.
C'est lui qui m'a découragé. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui découragent le diable. Oh, vous auriez pu dire Alléluia, là. Pas seulement pour le Seigneur, mais pour que le diable entende. Des hommes et des femmes qui découragent le diable.
Parce qu'ils se tiennent sur la promesse de Dieu, sur ce que Dieu dit qu'ils sont. Et le diable fuira. Encouragement dans ce domaine. Car plus nous irons de l'avant, plus la magie, la superstition, le satanisme va aller en s'amplifiant, mes chers amis. Et nous devons savoir comment résister. Ceci est important, car beaucoup tomberont uniquement par crainte de l'ennemi. Mais nous, nous resterons debout, parce que c'est l'ennemi qui nous craint. Je le répète encore et je le dis. Certains ont une Bible qui leur dit qu'ils ont un grand diable. Et un petit Dieu. À les entendre parler quand ils parlent du diable, ils en ont la foudre. Oh là, non, frère, faut pas parler là-dessus.
Ah bon, pourquoi t'en parles pas?
Parce que tu as peur de lui. Il ne faut pas parler de l'ennemi outre mesure, vous êtes d'accord avec moi? Mais il faut quand même dire ce que la Bible dit de lui. La Bible en parle et nous devons en parler. Et si nous n'en parlons pas, alors nous ne faisons pas ce que la Bible dit. N'en parlons pas plus que la Bible nous l'ordonne. Mais n'en parlons pas moins non plus. Et lorsque le moment vient, nous devons lui dire, attends.
Ah oui, je termine ma pensée. Je disais, mais il manque quelque chose là. J'ai commencé quelque chose et j'ai pas fini. Mais la Bible nous révèle non pas un grand diable et un petit Dieu, mais un grand Dieu et un petit diable vaincu. Personnellement, lorsque je parle de l'ennemi, je ne parle jamais de sa puissance et de sa victoire. Jamais. La Bible ne nous parle pas de cela.
Quand il est parlé de puissance, ce sont donc les autorités en question. Mais ces autorités ne sont plus puissantes, elles sont vaincues. Et nous devons parler de l'ennemi comme Dieu parle de l'ennemi. Il est vaincu. Commence à le confesser pendant cette année. Au lieu de dire, oh là là, vous savez, le diable il est fort, le diable il est rusé, le diable m'a eu, le diable par-ci, partout je vais, le diable est après moi. Le diable m'a joué des tours. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et fuira l'un de vous. Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et dans la version anglaise, il est dit, et rien ne pourra vous nuire en aucune façon. By any means, par aucune façon, d'aucune manière, le diable ne peut vous nuire. Si vous avez cru que c'est lui qui a peur de vous et qu'il est vaincu. Mais vous pouvez lui donner une autorité qu'il n'a pas. Le diable maintenant n'a que l'autorité que vous lui donnez. Si vous lui donnez peu d'autorité, il aura peu d'autorité. Si vous lui donnez beaucoup d'autorité, il aura beaucoup d'autorité. Mais si vous ne lui donnez aucune autorité, il n'a aucune autorité. Parce qu'il a été dépouillé, désarmé, désarçonné, défait. Éternellement. Et bientôt, le Seigneur écrasera Satan sous nos pieds.
Alléluia.
Encouragement dans le combat contre l'ennemi. Et pour terminer, encouragement dans le monde. Dans le monde. Nous devons prendre courage. Jean chapitre 16, verset 33, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Autrement dit, Jésus a vaincu le monde. Toute la puissance qu'il y a dans ce monde a été vaincue par Jésus. Ne dites jamais, c'est trop fort pour moi. Ne dites jamais, vous n'y arriverez pas. Vous ne pourrez pas faire face à la crise économique. Vous ne pourrez pas faire face aux différentes situations qui sont là. Ne dites jamais cela. Ce sont les puissances qui agissent dans ce monde. Mais nous, notre source n'est pas dans ce monde. Notre source est en Dieu. Si l'incrédulité vient dans ce monde, vous n'avez pas besoin d'être incrédule. La foi qui est en vous est plus forte que l'incrédulité qui est dans le monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Alléluia. Si la crainte est dans ce monde, la paix qui est en vous est plus forte que la crainte qui est dans le monde.
Alléluia. Recherchez premièrement son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si c'est la disette, la pauvreté dans ce monde, Dieu ne vous abandonnera jamais. Si vous recherchez premièrement son royaume et sa justice, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Prenez courage. Prenons courage dans ce monde. Petits enfants, 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a en vous quelqu'un qui peut vous donner la réponse à tous vos problèmes. La puissance pour résister à toute vague que l'ennemi voudra envoyer sur vous.
Il y a un rocher sur lequel vous pouvez être établi. Un rocher qui ne tremblera jamais. Vous pouvez trembler sur ce rocher, mais le rocher lui-même ne tremblera jamais. Amen. Peu importe si vous tremblez un petit peu, mais si le rocher sur lequel vous êtes lui ne tremblera jamais, donc, bon courage. Ne vous ai-je pas donné cet ordre, vous dit le Seigneur, au début de cette nouvelle année, je vous donne un ordre. Fortifie-toi et aie bon courage. Ce courage, nous devons nous-mêmes le manifester. Il n'est pas dit que nous devons le demander à Dieu. Prends courage. Nous disons, Seigneur, donne-moi du courage. Mais Dieu nous dit, prends courage. Ne jetons pas la balle à Dieu, c'est Dieu qui nous jette la balle. Prends courage. Et comment prendre courage? En prenant ces cinq pierres et en les jetant contre la face du géant. Et à rester debout sur le champ de bataille. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Si ce géant vous fait tomber, relevez-vous. Ne vous découragez jamais. Ayons la détermination de combattre jusqu'au bout. Alléluia. J'avais lu aussi cette histoire. Un missionnaire, une fois, était en train de prêcher, je termine par cela. Et tout à coup, lorsqu'ils étaient là avec un autre pasteur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un serpent qui est en train de sortir d'un espèce de baraquement. Mais en fuyant littéralement, il a dit, mais je n'ai jamais vu un serpent fuir comme ça. Et il avait demandé au pasteur, mais pasteur, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regardez mon serpent. Et puis, derrière le serpent, il aperçoit quelque chose. Un petit rat. De rien du tout. Qui lui court après. Et qui était en train de le mordre. Et le serpent ne faisait rien du tout. Plutôt comme ça. Et il fuyait, il fuyait, il fuyait. Et le petit rat qui était là derrière. Mais alors, il demande explication au pasteur. Le pasteur lui dit, voilà ce qui se passe. Habituellement, c'est toujours le serpent qui a la victoire. Mais alors là, il s'est passé quelque chose. C'est que ce serpent, sans le savoir, est tombé sur un nid, le nid du rat, où il y avait des petits bébés, des petits rats. Alors naturellement, cela a enragé le petit animal. Et il y a eu comme une réaction qui l'a littéralement enragé et fâché. Et cette réaction a fait que ça a pris de surprise l'ennemi. Le serpent, il était surpris de voir qu'un tout petit rat comme ça réagisse comme ça. Le serpent qui surprenait le rat, cette fois c'est le rat qui a surpris le serpent. Et il était tellement surpris que il n'arrivait plus à retrouver ses sens. Il a dit, j'ai qu'une chose à faire jusqu'à ce que je réfléchisse à la situation, c'est de m'enfuir. Et alors le petit rat... Voyez-vous, il y avait dans ce rat une telle détermination, un esprit de victoire. Voilà ce qui nous portera et transportera pendant cette année jusqu'au retour du Seigneur. Un esprit de victoire. Une détermination. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas de défaite. Mais c'est un esprit de victoire. Cela veut dire que vous perdrez peut-être beaucoup de batailles, mais que vous ne perdrez jamais la guerre. Alléluia. Alors, je vous donne cet ordre. Et je le prends pour moi-même, pour chacun d'entre nous. Fortifie-toi et prends courage. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le meilleur est devant toi. Le meilleur. Prends courage. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Je n'ai pas de chouchou. Ne dis pas, t'as été avec Moïse, et moi je ne suis rien du tout, je suis qu'un gamin. Et tu vas me Seigneur, moi c'est pas possible. Non, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Dieu n'a pas de chouchou, si vous voulez, tout le monde est son chouchou. Ou il n'a pas de chouchou, nous sommes tous tes chouchous. C'est où l'un ou l'autre? Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Comment? Seigneur, tu seras avec moi comme t'as été avec Moïse. Avec Paul, avec Pierre, avec Jean. Tu seras vraiment avec moi comme t'as été avec ces géants de la foi. Oui, je serai avec toi. Moïse est mort, mais le Dieu de Moïse n'est pas mort. Paul est mort, mais le Dieu de Paul n'est pas mort. Jean est mort, mais le Dieu de Jean n'est pas mort. Martin Luther est mort,
mais le Dieu de Martin Luther n'est pas mort. Alléluia. Fortifions-nous.
Et prenons courage pour prendre possession de tout ce que Dieu nous a donné, afin de lui présenter un butin, des armes, qui un jour le couronneront. Et tout cela vaudra la peine de voir un jour, comme fruit de notre consécration totale jusqu'à la mort, des âmes venir à lui, se courber devant lui et dire au Seigneur, « Seigneur, je suis là, bien sûr, à cause de toi, parce que sans ton sang précieux, je ne serais pas ici. Mais Seigneur, c'est à cause de lui aussi là. C'est à cause de celui-là qui a prié. C'est à cause de celui-là qui a donné. C'est à cause de celui-là là-bas, Seigneur, que je suis là. » Je vais vous dire encore quelque chose, vous avez le temps? Juste pour terminer sur cette pensée. Un jour, un évangéliste voulait faire de l'évangélisation. Et il voulait aller dans une certaine ville pour faire de l'évangélisation. Mais il ne savait pas comment faire. Il fallait qu'il soit aidé. Et alors, il est allé trouver un certain homme d'affaires. Et il lui a dit, est-ce que tu ne veux pas m'aider à faire de l'évangélisation dans cette ville? Et l'homme d'affaires lui dit, mais oui, c'est vrai, justement, je voulais que Dieu m'envoie quelqu'un ici pour évangéliser. Alors, je vais te soutenir. Et tu pourras faire ce travail. Tu sauveras des âmes. Alors, il est allé trouver aussi une autre personne. Et cette personne était une vieille dame qui priait. Et il a dit à cette femme, veux-tu prier pour ma mission? Nous allons bientôt avoir une mission. Mais oui, bien sûr, je priais justement pour que Dieu envoie un évangéliste. Je vais prier pour toi. Je serai derrière toi. Je vais prier. Et le jour où la mission a commencé, là, beaucoup d'âmes sont venues et beaucoup d'âmes se sont converties. Une centaine de personnes se sont converties. Une centaine. Et pendant qu'il était là, couché dans son sommeil, après cette merveilleuse mission, ah, il disait, oh là là, Seigneur, formidable, dis donc. Oh là là, ça va être formidable quand je serai auprès de toi. Ces 100 personnes qui se sont converties. Alors, merci Seigneur. Et pendant qu'il dormait, il a eu comme une vision. Et dans cette vision, il a vu le Seigneur qui lui donnait une couronne. Et sur cette couronne, il y avait 40 étoiles. 40 étoiles. Il a dit, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas bien. Je pense que ça veut dire c'est les âmes, des âmes sauvées, les étoiles. Mais Seigneur, il y a une centaine qui se sont convertis. Le calcul n'est pas très juste, Seigneur. Il y en a 40 là. Ah oui, il y en a 40 pour toi. Mais tu as oublié une chose. Il y en a 30 pour l'homme d'affaires qui a financé. Parce que s'il n'avait pas financé, jamais tu aurais pu faire cette mission. Et puis il y en a 30 autres aussi, pour la petite maman qui priait là-bas. Car si elle n'avait pas prié, eh bien tu n'aurais rien eu non plus. Ah, c'est ça, Seigneur. Ah oui, d'accord. Alors merci, Seigneur. J'ai bien compris, tous les comptes sont bien faits. Gloire à ton nom. Chers amis, chacun aura sa part là-haut. Combat, le bon combat de la foi. Amen.